l'écoute de RFI, 19h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Adriano Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous.
Et au sommaire ce soir, eh bien l'avenir de la bande de Gaza. Donald Trump persiste et signe.
Le tout le monde adore ma proposition de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer ses habitants, vient de déclarer le président américain. Après le tollé international qu'il a déclenché hier, nombreuses sont les réactions. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre toute tentative de nettoyage ethnique à Gaza. Ou encore en Europe, l'Allemagne. Pour l'Allemagne, Gaza appartient aux Palestiniens. C'est le dossier de notre édition.
Et puis nous en parlerons également avec nos collègues du Figaro. Juste après ce grand journal du soir, la levée de boucliers dans les pays arabes, la consternation du côté palestinien, tandis qu'Israël se frotte les mains.
Dans ce journal aussi, le Kremlin se dit sceptique. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky évoque des négociations directes avec Vladimir Poutine. La Suède rend hommage aux victimes de la pire tuerie de masse de son histoire. En France, François Bayrou reste en poste. Le Premier ministre esquive sa première motion de censure contre son gouvernement et au passage fracture un peu plus le nouveau Front populaire. Nous serons pour cela en direct de l'Assemblée nationale française. Et puis enfin, après la mort de l'Aga Khan, c'est son fils qui succède à la tête des Ismaéliens. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais avant de commencer ce journal, des voix dissonantes s'élèvent aux États-Unis. Alors que l'administration Trump continue de mettre le gouvernement fédéral à sa main en tentant de fermer plusieurs agences, un peu plus de deux semaines après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, des voix d'opposition commencent à se faire entendre. Nous sommes avec Guillaume Nodin qui se trouve devant le Capitole à Washington. Guillaume, où des gens manifestent contre les mesures de la présidence.
Oui, plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées ici et qui commencent à se disperser. La manifestation est en train de se terminer, Adrien. Et les personnes qui étaient là protestaient contre la fermeture de l'USAID, qui est l'agence américaine d'aide au développement et d'aide internationale, dont la plupart des employés sont placés en congé administratif. C'est une sorte de chômage technique. Et ceux à qui j'ai pu parler ne sont plus payés déjà depuis lundi. Et ils espèrent faire changer d'avis ou en tout cas faire entendre leur voix pour que les mesures qui sont prises contre leur agence soient levées et que leur agence continue à vivre. C'est moins d'1% du budget des États-Unis, me disait-il, et ça représente beaucoup d'aide à l'étranger et ça travaille aussi, cette agence, pour la sécurité des Américains à l'étranger puisque, en fait, cette aide est censée permettre dans les zones qui sont particulièrement touchées par la pauvreté d'éviter la radicalisation des personnes concernées. Plusieurs centaines de personnes ici avec des parlementaires qui sont sortis du Capitole pour venir les haranguer. Une autre manifestation qui était un peu plus spontanée qui se déroule un peu devant tous les Capitoles de tous les États des États-Unis est également en cours. Ici, elle rassemble juste une dizaine de personnes. Mais c'est comme des premières fois, on a vu ça hier devant le département du Trésor, une des premières fois que plusieurs centaines de personnes se rassemblent pour protester contre les mesures de l'administration Trump. C'est une des premières fois qu'on en voit des Américains sortir de la sidération des mesures qui sont annoncées depuis plus de deux semaines par l'administration Trump et par le président.
Guillaume Nodin en direct de Washington pour RFI. Alors parmi les dernières idées de Donald Trump, celle-ci est peut-être en haut de la pile, car c'est celle qui fait le plus réagir à l'international. Hier soir, en conférence de presse avec à ses côtés le Premier ministre israélien, le nouveau président américain propose de reconstruire Gaza sans les Palestiniens. Donald Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza, sans en préciser d'ailleurs le calendrier ni même le rôle exact des États-Unis. Pour arriver à ses fins, il souhaite expulser plus de 2 millions d'habitants vers les pays voisins comme la Jordanie et l'Égypte, pour transformer Gaza, dit-il, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Julien Chavannes, bonsoir.
Bonsoir.
Les réactions suite à cette annonce de Donald Trump sur la bande de Gaza sont unanimes. C'est un tollé.
Ouais, une opposition claire et nette entre stupeur, consternation et condamnation. Tout ça sur fond d'inquiétude sur les conséquences d'un tel plan. La France parle de déclarations dangereuses pour le processus de paix dans la région. La Russie et la Chine dénoncent un projet qui va à l'encontre d'une solution à deux États. Rejet catégorique chez les pays arabes. L'Égypte et la Jordanie, censés accueillir les habitants de Gaza selon la Maison Blanche, y voient une ligne rouge. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar mettent en garde contre toute colonisation ou annexion des territoires palestiniens. Tous sur la même ligne, mais impuissants à dépasser le stade des mots et des vieilles recettes, sans tenir compte de la réalité après 14 mois de guerre et la destruction de la bande de Gaza. Xavier Guignard est chercheur associé à Noria Research. Et pour lui, les Européens, tout comme les pays arabes, sont en quelque sorte paralysés, incapables de proposer une alternative.
Il va y avoir un effet, je pense, de tétanie chez un grand nombre d'acteurs devant les déclarations de Trump, mais tétanie aussi parce qu'ils sont incapables de formuler une solution humanitaire, de reconstruction et politique qui ne soit pas la répétition de ce qui est dit et répété depuis une vingtaine d'années à minima pour tenter de relancer un processus de paix qui est complètement mort. Et en ça, Trump a un coup d'avance parce qu'il met sur la table une proposition. Alors elle est odieuse, elle est conforme à aucune loi internationale, mais il avance quelque chose et devrait forcer les autres partis, pays arabes et européens, à être capables de formuler une contre-proposition, et on ne les entend pas.
Le chercheur Xavier Guignard avec Nicolas Falaise. Ce soir, le chef de l'ONU lance une alerte contre toute tentative de nettoyage ethnique à Gaza. La réaction la plus vive, sans surprise, est venue du président de l'autorité palestinienne. « Nous ne permettrons pas que soient bafoués les droits de notre peuple », a prévenu Mahmoud Abbas. Du côté du Hamas, qui contrôlait la bande de Gaza avant la guerre, un responsable a jugé l'idée de Donald Trump absurde et susceptible d'enflammer la région. Au lendemain de ces déclarations fracassantes, on ignore encore comment Donald Trump veut mettre en œuvre son plan. Seul le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'extrême droite israélienne ont salué ces annonces.
Julien Chavanne, parmi les différentes initiatives du président américain, Donald Trump a signé hier un décret pour retirer les États-Unis de plusieurs instances des Nations Unies. Le décret vise aussi à passer en revue l'implication américaine au sein de l'UNESCO. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui a aussi démontré un biais anti-américain selon Will Scharf, conseiller du président américain. Une annonce qui détonne jusqu'en Irak, où la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, s'est rendue aujourd'hui pour inaugurer plusieurs lieux emblématiques de Bagdad. Reportage Marie-Charlotte Roupy.
Au pied du minaret El Hadba, le minaret penché emblématique de la ville de Mossoul, détruit par l'État islamique, reconstruit et inauguré ce mercredi, Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, adresse un message à l'Assemblée.
Si vous prenez l'exemple de la reconstruction de ce minaret, ça a été possible de le reconstruire comme les habitants de Mossoul le voulaient, penché. Ça a été rendu possible par la coopération internationale.
Pour reconstruire une partie du patrimoine de la ville, l'UNESCO a rassemblé 115 millions de dollars, en grande partie auprès des Émirats Arabes Unis et de l'Union Européenne. Dans ce contexte, l'annonce la veille de Donald Trump de réévaluer l'engagement des États-Unis auprès de l'UNESCO semble à mille lieues de l'idée portée par cette journée d'inauguration après 6 ans de chantier. Audrey Azoulay.
Ce qui a été annoncé, c'est un examen, je crois, de l'ensemble des participations des États-Unis dans le système multilatéral. Je pense que quand on est aujourd'hui à Mossoul, on voit ce que c'est que le multilatéralisme en action. On voit que quand des nations se mettent ensemble, à la même table, pour la culture, pour l'éducation, pour la diversité, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée.
Alors que pour Mossoul, une page se referme, il est très difficile d'évaluer l'impact que cette décision américaine pourrait avoir sur de futurs projets internationaux. Marie-Charlotte Roupy, Mossoul RFI.
Et puis enfin, dans le sillage des États-Unis, le président argentin va retirer l'Argentine de l'Organisation mondiale de la santé. Javier Milei invoque de profondes différences sur la gestion sanitaire et l'influence politique, dit-il, de certains États.
Alors cette déclaration à présent importante, pour la première fois depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui dit être prêt à s'asseoir à la table des négociations avec son homologue russe Vladimir Poutine, si cela pourrait apporter la paix en Ukraine.
Oui, il répondait aux questions du journaliste britannique Piers Morgan, et ses propos ont beaucoup surpris en Ukraine. comme nous l'explique notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
En Ukraine, suite aux propos du président Zelensky sur d'éventuels pourparlers directs avec Vladimir Poutine, beaucoup restent sceptiques, comme Lena, qui vit et travaille à Kiev.
Quelle garantie peut-on avoir venant d'un État terroriste comme la Russie, qui a prouvé qu'elle l'était bel et bien? Et que va-t-il advenir des personnes vivant en territoire occupé, à nos prisonniers de guerre, à tous nos citoyens qui ont été enlevés par la Russie en dépit de toute loi? Et que va-t-il advenir de nos enfants qui ont été kidnappés par la Russie?
Pour Andriy, un soldat en permission, ces négociations n'ont tout simplement aucun sens.
Le temps ne jouera qu'en faveur de Poutine. Il reprendra des forces et continuera à commettre ses crimes. Les négociations avec lui ne valent même pas le papier sur lequel elles seront écrites. Elles sont juste bonnes à jeter aux toilettes.
Après plus de 3 ans de guerre totale, les Ukrainiens sont certes épuisés, mais pas prêts à capituler. Beaucoup voudraient que la guerre s'arrête, mais pas à n'importe quelles conditions. Et une courte majorité de la population se range toujours derrière son président, qui refuse d'envisager toute concession territoriale. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Réaction de Moscou, le Kremlin juge vide de sens les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est dit prêt la veille à des négociations directes avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Et puis notons ces échanges de prisonniers. C'est d'ailleurs un sujet qui reste l'un des rares sur lesquels l'Ukraine et la Russie, deux pays en guerre, parviennent à s'entendre. Le ministère russe de la Défense annonce que 150 de ces militaires détenus par l'Ukraine ont été échangés contre 150 prisonniers de guerre de l'autre camp.
Il est 19h11 ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du grand journal du soir d'Adrien Delgrange sur RFI. La politique en France, lundi, François Bayrou avait dégainé l'article 49.3 de la Constitution. Et bien, 2 jours après, aujourd'hui, le Premier ministre fait face à la menace de 2 motions de censure.
Oui, c'était d'ailleurs la première sur le projet de budget qui vient d'être rejeté. Charlotte Urien-Tomaca, vous êtes en direct de l'Assemblée nationale française. Il y avait peu de suspense en raison de la fracture du nouveau Front populaire qui ne laissait que peu d'illusions quant à son succès.
Oui, pour le moment, François Bayrou ne connaîtra pas le même sort que son prédécesseur, donc Michel Barnier. Il fallait 289 voix pour que la motion de censure soit adoptée. Elle n'en a recueilli que 128. Sans le soutien des socialistes, qui ont néanmoins été 6 à voter cette motion, et des députés RN, c'était donc mission impossible. Et même si la plupart des élus d'opposition expliquent que ce budget ne leur plaît pas, qu'il n'est pas le leur, l'idée, en ne votant pas cette motion de censure, c'était de ne pas plonger le pays dans l'instabilité. Et il fallait que la France ait un budget, comme le disent les députés du PS, par exemple. Le rejet de cette motion vaut donc adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2025, avant un dernier vote sans suspense au Sénat ce jeudi pour faire adopter définitivement le budget de l'État. Le second texte de LFI sur la motion de censure contre le 49.3 déclenché, cette fois sur le premier volet du budget de la Sécurité sociale, est examiné en ce moment même ici à l'Assemblée, et là encore, peu de suspense.
Charlotte Urien-Tomaca. L'actualité européenne, marquée aussi par cette fusillade hier en Suède. Le pays est en deuil au lendemain de la pire tuerie de son histoire qui a fait 10 morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro. C'est à 200 km environ de Stockholm. Une tuerie qui laisse de nombreuses questions en suspens. 24 heures après cet acte, la police confirme que le tireur a tué 10 personnes et c'est probablement suicidé. L'actualité africaine qui sera développée dans un quart d'heure avec Zéphirin Kouadio en République démocratique du Congo. Les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Nwabimwe. Nos positions ont été attaquées, confirme le porte-parole du gouvernement congolais qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu. Et puis juste avant de retrouver le journal des sports, parlons des Jeux Olympiques d'hiver. Alpes 2030, le projet attend toujours la nomination du président du comité d'organisation. Martin Fourcade, qui était pourtant le favori, a jeté l'éponge en début de semaine. Il évoque des désaccords trop nombreux avec les autres acteurs du projet. D'autres noms ont déjà circulé, comme celui du biathlète Vincent G, très impliqué dans le dossier. Mais la ministre des Sports, Marie Barsac, assure que les candidatures sont encore étudiées.
C'est vrai que le retrait de Martin Fourcade a ouvert du coup, les envies et c'est bien. Nous, on est ravis de pouvoir avoir le choix pour choisir le candidat qui sera le meilleur pilote du bateau Alpes 2030. Donc pour nous, ce qui est important en tout cas, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment du milieu du sport, qui a l'ADN du sport chevillé au corps, parce que pour nous, le sport est très rassembleur. Ça rassemble évidemment les parties prenantes autour du projet. C'est un sportif ou en tout cas quelqu'un issu du milieu du sport a cette capacité à apporter une vision pour le sport, et puis également à rassembler les Français. Ça aussi, c'est important. C'est pour ça qu'on est plutôt parti sur une personnalité du monde du sport.
La ministre française des Sports, propos recueillis par Solène Ravenel.
Ça tombe bien, on va parler des sports. Il y a déjà Christophe Dirémian qui est à nos côtés en studio. Bonsoir Christophe. Oh, ah, bah, il faut ouvrir le micro, 19h15 ici à Paris. C'était le grand journal d'Adrien Delgrange.
Romain Ozoui.
Et avant de parler sport, le grand titre de l'actualité ce soir, on jette un petit coup d'œil au programme à venir. Les réactions affluent évidemment suite à la proposition de Donald Trump de vider Gaza de sa population et d'en faire un territoire américain. Levée de boucliers dans les pays arabes, consternation du côté des Palestiniens, tandis qu'Israël se frotte les mains. On fera le tour des réactions et on les analysera, ces réactions, avec nos collègues du Figaro. Et puis juste après, nous irons aux Philippines, où un projet de loi pour lutter contre les grossesses précoces fait polémique. Ce projet de loi prévoit des mesures sur l'éducation sexuelle. C'est inconcevable pour des associations catholiques qui se sont regroupées et qui mènent l'offensive. Reportage à suivre. Mais pour l'heure, donc, on vous l'a dit, hein, voici les sports. Avec Christophe Dirémian donc. Christophe, le football, la suite de la semaine consacrée aux Coupes Nationales en Europe. Cap d'abord sur l'Espagne, où le Real Madrid dispute son quart de finale de la Coupe du Roi.
À l'extérieur, mais pas très loin de ses bases en fait, puisque c'est à Leganés, dans la banlieue de la capitale espagnole, que les merengues vont tenter de rejoindre le dernier carré, comme l'Atlético l'a fait hier en balayant Getafe 5-0. Leur adversaire du jour n'est que 16e de Liga, qui ne devrait donc pas leur faire peur, mais le contexte de ce match n'incite pas forcément à la totale sérénité. Défaite en championnat il y a 3 jours, défense centrale décimée par les blessures, et pour ne rien arranger, Kylian Mbappé absent après avoir été touché au mollet précisément dimanche. Les grosses tuiles s'accumulent donc avant ce duel programmé à 20h temps universel.
Voilà pour le foot en Espagne. Le foot en France à présent, avec 4 nouveaux matchs à suivre en 8e de finale de la Coupe de France.
Et tous à 19h45 TU pour le coup d'envoi. Un seul duel entre clubs de Ligue 1, Strasbourg, Angers et les Alsaciens au cœur du classement du championnat. Les Angevins, seulement 12e, peut-être davantage préoccupés par la lutte pour le maintien que par la perspective de soulever un trophée. Mais ça n'est pas vraiment l'avis du défenseur ivoirien Abdoulaye Bamba. Si l'équipe peut jouer sur les deux tableaux, elle le fera. D'autant que la coupe, ça ne marche pas mal pour l'instant.
Ça reste dans la dynamique. Déjà, c'est très bien d'être à ce niveau de la Coupe des France. Ça veut dire qu'on prend chaque match au sérieux. C'est qualifiant. Et donc, ça doit rester un match très important pour nous pour justement garder cette dynamique. Mais on sait que le maintien est très important, c'est bien évident. Mais la coupe, elle est très importante aussi pour nous. Donc, on sait qu'on a un groupe où le coach fait confiance à tout le monde. Donc, c'est très bien pour la confiance du groupe, pour les temps de jeu. Donc, c'est un tout.
Abdoulaye Bamba, de son côté, Toulouse accueille Guingamp, club de Ligue 2. Nice est en déplacement à Saint-Brieuc, pensionnaire de National 2, 4e division. Enfin, Cannes, National 2, reçoit l'un des deux petits poussés restants, les Normands de Dives-Cabourg, National 3. En Angleterre, première demi-finale, retour de la Coupe de la Ligue, Newcastle-Arsenal. Les Gunners s'étaient inclinés 2-0 à l'aller. Enfin, quart de finale de Coupe d'Italie au programme. Le Milan AC reçoit l'AS Rome à 20h TU.
Voilà qui est complet pour le foot. L'annonce avait fait sensation ce week-end en NBA. Cette fois, c'est du basket. Deux stars échangées par leurs clubs respectifs. Et cela en pleine saison. Lucas Doncic contre Anthony Davis. Eh bien, les deux ont rejoint, ça y est, leur nouvelle franchise. Ouais,
Davis à Dallas, Doncic à Los Angeles. Les fans commencent à peine à digérer cet incroyable troc. Le Slovène de 25 ans revient tout juste de blessure. Il pourrait entraîner, son maillot des Lakers dès la fin de la semaine et entamer une collaboration très attendue avec son idole LeBron James, de 15 ans son aîné. Mais l'écart d'âge ne les tient pas du tout à distance. Au contraire, Luka Doncic a même déjà eu un premier contact avec la légende des parquets.
Il m'a appelé directement. Il était à New York à ce moment-là. On n'a pas parlé longtemps, mais c'était sympa de sa part. Il m'a dit qu'il comprenait ce que je ressentais et m'a souhaité la bienvenue à Los Angeles. C'est un rêve qui devient réalité. J'ai toujours vu LeBron James comme un modèle. Il y a tellement de choses que je peux apprendre à ses côtés. Je vais le voir tous les jours, jouer avec lui. C'est excitant, incroyable. En plus, plus, nous allons rendre l'équipe meilleure. On a tous les deux une grande intelligence de jeu. Ça va aider tout le monde.
I think that's going to help everybody.
Luka Doncic peut être associé donc une première fois avec LeBron James à l'occasion du match des Lakers de samedi soir contre les Indiana Pacers. Le basket, c'est aussi l'Euroleague, 25e journée de la phase régulière. Le Paris Basket se prépare à un nouveau choc avec le leader, l'Olympiakos, le club grec battu chez lui lors du match aller il y a deux mois. Coup d'envoi à l'Adidas Arena, 19h30, temps universel. Pour sa part, Monaco, 3e du classement, reçoit les Espagnols de Vitoria.
C'était le journal des sports de Christophe Diremzian. Merci. Merci à vous, 20h20 à Jérusalem. Avalanche de réactions ce mercredi suite au plan de Donald Trump pour Gaza, le président américain qui crée la polémique en proposant de vider l'enclave palestinienne de sa population et d'en faire un territoire géré par les États-Unis. Il l'a dit hier lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonsoir Philippe Gély.
Bonsoir Romain.
Depuis la rédaction du Figaro, alors vous consacrez une double page à cette actualité dans votre édition à paraître demain jeudi avec dans cette double page le détail, l'analyse des nombreuses réactions. Déjà à Jérusalem, votre correspondant qui publie un long papier sur ce sujet, comment du côté d'Israël est-ce qu'on réagit à cette proposition de Donald Trump ?
Écoutez, dans le camp proche de Benjamin Netanyahou et encore plus sur sa droite, voire sur son extrême droite, on se félicite évidemment des propositions de Donald Trump puisque il y a cette idée défendue depuis les massacres du 7 octobre 2023 de nettoyer entre guillemets la bande de Gaza de ses extrémistes et de ses habitants et d'y réimplanter des colonies israéliennes. Donc la coalition de Benjamin Netanyahou y est plutôt favorable, même si on a vu que le premier ministre israélien avait l'air presque dépassé par les propos de Donald Trump lors de la conférence de presse mardi soir à Washington. Ce qui est plus étonnant, c'est que même dans l'opposition démocratique, on est très prudent. Benny Gantz, qui est le principal rival de Netanyahou pour le poste de premier ministre, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, a salué une pensée créative, originale et intéressante qu'il faut examiner. Pour les démocrates, le parti des démocrates, certes, un transfert de population pourrait se transformer en cauchemar pour Israël. Et surtout, ce qu'ils redoutent, c'est la déstabilisation possible des pays voisins, l'Égypte et la Jordanie, qui seraient invités par M. Trump à accueillir ces millions de Palestiniens.
Et justement, comment ces États arabes concernés donc réagissent à cette proposition de Donald Trump? L'idée du président américain, c'est qu'ils accueillent les Palestiniens et qu'ils seraient expulsés de Gaza.
Oui, d'ailleurs, le président américain dit que, certes, le président Al-Sisi et le roi Abdallah de Jordanie disent qu'ils n'accepteront pas les Palestiniens, mais moi, Donald Trump, je vous dis qu'ils le feront. Écoutez, côté arabe, c'est vraiment unanime. Il n'y a pas une voix qui se soit élevée pour applaudir à ce projet. L'Arabie Saoudite, dont on sait que Donald Trump mise beaucoup sur son rapprochement avec Israël pour pacifier le Proche-Orient et étendre les accords d'Abraham qu'il avait signés, il avait présidé à leur négociation lors de son premier mandat. L'Arabie Saoudite exclut absolument le plan de Donald Trump et réinsiste pour la création d'un État palestinien. D'ailleurs, il faut aussi dire que tous les observateurs, disons indépendants et qui suivent ce dossier de près, ont plus de stupeur et d'interrogation que d'explication à la proposition de Donald Trump. Les mots sont assez durs, mais tous les experts du dossier, ça va d'une proposition totalement incompréhensible, détachée de la réalité, vraiment bizarre et incohérent. Quel intérêt américain cela pourrait-il servir, etc.
Et côté palestinien, comment est-ce qu'on accuse le coup?
Côté palestinien, si vous voulez, on est en train de leur annoncer que de la rivière à la mer, pour reprendre une expression utilisée depuis longtemps, de la rivière à la mer, la Palestine cesse d'exister. C'est ce qu'on est en train de leur dire. Donc, évidemment, on peut s'attendre à ce que la réaction soit totalement négative. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un point, c'est que la bande de Gaza, dans l'histoire, d'abord était historiquement un carrefour de commerce entre l'Égypte, la Palestine, la Syrie, etc., en gros le Levant, et que même à l'époque de Shimon Peres, on avait envisagé que le camp de la paix, alors pour le coup, on voyait dans Gaza le potentiel d'un Singapour du Moyen-Orient. Mais évidemment, c'était pas en chassant les Palestiniens, c'était au contraire pour sceller la paix qui, à l'époque, avait encore disons, quelque espoir devant elle, c'était pour sceller la paix que le développement économique de Gaza était considéré comme un atout possible et précieux.
Philippe Gély, vous aviez évoqué les accords d'Abraham mis en œuvre lors de son premier mandat par Donald Trump. Est-ce que le président américain ne se tire pas, d'une certaine manière, une balle dans le pied avec cette proposition, ce plan pour Gaza, justement, dans ce cadre-là?
Ouais, tout Donald Trump est dans cette façon de faire. Certes, ceux qui en font crédit, c'est de penser en dehors des cadres habituels, ça c'est certain, mais pour quelqu'un qui poursuit ouvertement le prix Nobel de la paix, commencer par proposer quelque chose qui, au regard du droit international, constitue un crime contre l'humanité, selon l'article 7 du statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale, c'est plutôt audacieux.
Réaction et analyse des propositions de Donald Trump pour Gaza à retrouver donc ce jeudi dans Le Figaro et sur votre site internet évidemment. Merci Philippe Gély.
Merci Romain.
19h25 ici à Paris, les cours d'éducation sexuelle alimentent actuellement le débat en France. Aux Philippines également, une coalition d'une dizaine de groupes catholiques mène une offensive contre un projet de loi philippin qui entend lutter contre les grossesses précoces et qui, dans ce cadre-là, eh bien, prévoit de mettre en place des mesures sur l'éducation sexuelle. C'est inacceptable pour les partisans du projet intitulé Delicey, qui multiplie la publication de vidéos de désinformation. Et la cible semble avoir été atteinte, puisque le président Marcos a annoncé son intention d'opposer son veto à cette loi. C'est un coup de massue pour ceux qui se battent pour les droits des femmes et des enfants aux Philippines. Notre correspondant Nemo Lecoq James s'est rendu à Tondo, district le plus pauvre de la capitale Manille, où l'association LICAN lutte contre le fléau croissant des grossesses précoces. Reportage.
Pour entrer dans le daycare center, la maison des jeunes du quartier, il faut contourner les poules, les chiens et les sacs d'ordures.
Asseyez-vous les jeunes, je vous en prie.
Venez vous asseoir devant, ne soyez pas timides.
Cet après-midi, c'est ici que l'association LICAN vient donner un cours d'éducation sexuelle aux adolescents des alentours. Nous sommes à Aroma, l'un des bidonvilles les plus pauvres des Philippines.
Alors je suis Yvonne. Je serai avec vous pour toute cette session et on va parler de sexe, de plaisir, de la grossesse chez les adolescentes et des maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Tout ça pour mieux vous protéger en tant qu'adolescent.
Depuis plus de 30 ans, LICAN est présente dans tous les quartiers les plus pauvres de Manille. Son but, éduquer et donner un accès à la contraception. Et son rôle est indispensable en ce moment. Depuis le 10 janvier, un tout nouveau groupe catholique appelé le projet Delicey tente de saboter un projet de loi pour la mise en place de cours d'éducation sexuelle à l'école. Tout a commencé avec la diffusion d'une vidéo remplie de fake news et devenue virale. Marc, membre de l'association, me confie l'avoir vue.
Ils font tellement peur aux parents, par exemple, en disant qu'ils n'auront plus d'autorité pour guider leurs enfants sur la sexualité. Ce qui est faux, parce que dans le projet de loi, il est écrit que la participation des parents sera nécessaire, mais avec l'aide de l'école.
L'aide de l'école est surtout importante ici, dans les quartiers les plus pauvres de Manille, où l'accès à l'éducation et à l'information est limité. Résultat, le nombre de grossesses précoces est en hausse.
En fait, c'est une urgence nationale. Et depuis 2019, nous n'avons pas été capables d'en sortir. L'année dernière, le taux de grossesse adolescente a augmenté de 35 à 38%. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas baissé. En plus de tout cela, les filles tombent enceintes de plus en plus jeunes.
Exemple à quelques pas d'ici, au cœur de Tondo, où se trouve une des cliniques gynécologiques de LICAN. Lina Bacalando et ses collègues sages-femmes accueillent tous les jours des adolescentes et leurs bébés.
La plus jeune patiente que l'on a eue ici avait 12 ans.
Elle était enceinte ?
Elle avait déjà un bébé.
Voilà pourquoi LICAN se bat depuis 2 ans avec d'autres associations et des membres de la société civile pour faire adopter la loi contre les grossesses précoces. Et la bataille n'est pas finie. Suite à la polémique, un projet de loi de substitution a été déposé. Le président Marcos a dit bien vouloir le réévaluer. Nemo Lecoq James, de retour de Tondo, RFI.
Et retour ici à Paris, bientôt 19h29. Ça veut dire que dans une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir à la une de la RDC, la mobilisation des églises pour une sortie de crise dans l'Est du pays. Et puis RFI Soir continue, hein, Accent d'Europe à suivre après le journal international de 19h, temps universel. Et évidemment, le grand reportage. Restez à l'écoute.
Appelez-nous, exprimez-vous,
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Jusqu'au 16 février prochain, votez pour l'un des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2025. Le choix du public sera pris en compte lors du grand jury présidé par Angélique Kidjo qui proclamera le lauréat de cette année. Découvrez et écoutez les 10 candidats finalistes sur le site RFI.fr, sur nos réseaux sociaux et sur le site prixdécouverte.com jusqu'au 16 février. À vous de voter.